Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule s'était aperçue que Jésus n'était pas au bord du lac, ni ses disciples non plus. Alors, les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors, « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Pour bien comprendre, resituer cet évangile, je crois qu'il faut un petit peu se plonger dans la mentalité des Juifs, puisque Jésus s'adresse aux Juifs, Jésus connaît bien cette culture, Jésus est Juif. Et pour les Juifs, ils attendent le nouveau Moïse. Et donc Jésus, dans l'évangile de saint Jean, se présente, se révèle comme le nouveau Moïse. Et Moïse, pour les Juifs, c'est qui ? C'est celui qui, d'abord, a reçu, grâce à lui, on a eu le don des mannes, et puis c'est celui à qui Dieu a donné le don, ce don inestimable, qui provoque toute la joie d'Israël, le don de la Torah. La Torah, c'est la loi, donc le don de la... Dieu donne sa loi, donc il permet aux Juifs de comprendre sa volonté chaque jour. Voilà. Et si on regarde un petit peu le psaume 118, je ne sais pas si... Certains sont familiers de ce psaume, c'est un psaume qui est très long d'ailleurs, et en fait où le peuple d'Israël laisse éclater sa joie, la joie d'avoir la loi de Dieu. Voilà. Donc Moïse, c'est celui qui a reçu le don des mannes et le don de la loi. Et très rapidement dans l'évolution de la pensée juive, les Juifs vont comprendre, le peuple d'Israël va comprendre que ces mannes, en fait, ce ne sont rien d'autre, la véritable manne, ce n'est rien d'autre que la loi de Dieu. Voilà. Très vite, ils vont associer les mannes et la loi de Dieu. Donc Jésus, là, intervient dans cette discussion, dans ce contexte. Et Jésus va s'efforcer de faire comprendre aux Juifs que si les mannes, la véritable manne, c'est la loi de Dieu, eh bien que cette multiplication des pains qui vient de se réaliser quelques versets avant notre passage de l'Évangile, eh bien elle est le signe de quelque chose d'autre. Et c'est justement, Jésus veut montrer que les mannes sont le signe de la véritable loi de Dieu qui est Jésus lui-même. Et c'est là où Jésus rencontre une difficulté, non seulement avec les Juifs, mais avec nous, dans chacune de nos vies. C'est un petit peu la même difficulté qui se pose, c'est de nous aider à passer du signe à précisément ce qui est montré par le signe, Hein, c'est comme le proverbe, il y a un proverbe chinois qui dit « Lorsque le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. » Le fou, c'est quoi? C'est celui, on peut dire aussi l'insensé, celui qui ne comprend pas le sens du signe. Et parfois, nous, on est un peu comme ce fou, ou un peu comme tous ces gens qui accompagnent Jésus, c'est-à-dire qu'on regarde plus le doigt que la lune. Le Seigneur multiplie les pains, on regarde davantage comme ces gens qui ont faim, voilà, ils regardent le pain, hein, au lieu de regarder ce que le pain signifie. Voilà, parce que le Seigneur, il nous invite toujours à passer du visible, c'est le sens du symbole aussi, hein, à l'invisible. C'est le sens de la liturgie aussi. Dans la liturgie, nous avons plein de signes visibles, tout un tas de, nous avons des rituels, un ensemble de symboles visibles, mais qui nous invitent à passer à l'invisible. Et notre cheminement de foi est un passage constant du visible à l'invisible. Parce que, paradoxalement, pour nous chrétiens, l'invisible, Dieu, est plus vrai que le visible. Notre vie de chrétien repose davantage sur l'invisible que sur le visible. Lorsque, ça peut être à travers de nombreux exemples dans la vie, mais lorsque par exemple je vois un beau paysage, eh bien ce beau paysage me renvoie au Créateur. Et le Créateur est plus réel que ce beau paysage. Lorsque je vois des personnes, eh bien ces personnes me renvoient à la présence du Christ qui est en chacun de nous. Et ce saut, il est difficile à faire. Parce que finalement, le Seigneur, il nous invite à comprendre que ce qu'il est venu nous apporter, eh bien, c'est pas nécessairement le bien-être, c'est pas nécessairement d'être rassasié de pain. Parce que si les chrétiens vivaient dans des conditions matérielles plus aisées que les autres, ou si les chrétiens échappaient à la souffrance, ou les chrétiens étaient tous dans le bien-être, ça se saurait depuis longtemps. Le Seigneur, il est en train de nous dire, voilà, le salut que je suis venu vous apporter, il est bien plus profond. Je suis venu vous apporter un bien bien plus profond, bien plus vrai, bien plus authentique, bien plus précieux que du pain. Et alors, c'est quoi ce bien véritable, finalement, dont nous avons besoin? Alors, on pourrait parler peut-être des heures là-dessus, mais finalement, le bien que nous recherchons tous, eh bien, nous pouvons le trouver en remontant le chemin de nos peurs, je crois. Dans notre vie, nous avons tous des peurs, hein, la peur de l'échec, la peur du conflit, la peur que ça se passe mal, la peur de ne pas être apprécié, etc. Et si on regarde un petit peu toutes nos peurs qui ensemencent nos vies, qui sont un petit peu sur le chemin de notre vie, eh bien, nous pouvons nous rendre compte que à chaque fois qu'il y a une peur, nous nous sommes protégés. Nous nous sommes protégés de quoi ? Eh bien, au final, ce qu'il y a derrière toutes nos peurs, ce contre quoi on se protège, finalement, je crois que si on creuse un peu, chacune de nos vies, nous arrivons à cette peur de la mort, qui est cette peur de ne pas être aimé, quoi. Cette peur de ne pas avoir de valeur, quoi. D'être rien du tout. La peur du néant. Et c'est ça, la peur qui nous détruit notre vie. Et donc c'est là où on se rend compte assez facilement, en remontant le chemin de nos peurs, que le bien le plus précieux qui existe dans nos vies, eh bien c'est celui d'être aimé de manière inconditionnelle, de rencontrer celui qui est l'amour. Et c'est parce que je suis aimé de manière inconditionnelle qu'à mon tour, je peux aimer. Et ce qui est très frappant dans cet évangile, c'est que le Seigneur, c'est cette petite réflexion des apôtres. Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Jésus leur montre qu'il faut dépasser le pain de la terre et qu'il faut aller au pain, à la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, c'est-à-dire l'amour, la rencontre avec Dieu. Et la question des disciples, c'est que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Donc autrement dit, qu'est-ce que moi je peux faire pour obtenir ce bien ? Par mes propres moyens, par mes propres forces. Et la réponse de Jésus est extraordinaire, c'est l'œuvre de Dieu, Alors on imagine déjà les disciples qui se sont retroussés les manches pour savoir un petit peu la recette, comment ils vont faire pour avoir ce bien éternel. Et la réponse de Jésus, c'est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Autrement dit, Jésus nous dit, voilà, le bien le plus profond qui existe pour l'homme, le bien authentique, le bien véritable, que le Seigneur nous montre, la véritable manne, eh bien elle n'est pas au bout de nos efforts. La véritable manne, ce dont nous avons le plus besoin dans notre vie, est donné. Mais ça, c'est très difficile à comprendre, parce que nous passons notre vie à chercher par nos propres forces plein de choses. Et on imagine que ce qui est le plus profond en nous, ben forcément, c'est comme le reste, c'est comme l'argent, c'est comme les biens matériels, c'est comme la nourriture, eh bien, il faut aller au supermarché, quoi. Il faut aller travailler le matin. Donc on s'imagine que ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est comme le reste, c'est au bout de nos forces. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'agite. On s'agite pour essayer de trouver, finalement, ce qu'il y a de plus précieux en nous. Et on s'agite pour être aimé, finalement. On dépense beaucoup d'énergie pour être apprécié, pour réussir, pour éviter les conflits, ou au contraire, les affronter, pour... voilà. On dépense beaucoup d'énergie. Et on se fatigue. On se fatigue beaucoup quand on ne vit pas dans la foi. Moi, je sais que dans ma propre vie de prêtre, plus je me fatigue à la tâche, pas me fatiguer parce que je dors pas assez, ça, bon, c'est pas très compliqué, ça. Mais plus je m'use psychologiquement à la tâche, plus je me rends compte que sans doute, je ne suis pas assez dans la foi. Parce que sans doute, je cherche ce qu'il y a de plus important ou je veux le donner aux autres grâce à moi. Donc forcément, je me fatigue, je m'use. Et plus je vis dans la foi, plus ce trésor, cette manne, la véritable manne, elle m'est donnée. C'est pas fatigant. Le curé d'Ars, il était fatigué au fond de sa vie parce qu'il s'était usé physiquement. Mais il était dans une paix profonde. C'était pas une fatigue qui abîme. C'était pas une fatigue qui use au mauvais sens du terme. C'était une fatigue parce qu'il avait tout donné. Mais c'était une fatigue qui allait de pair avec une véritable joie. Vous voyez, je pense qu'il y a les mauvaises fatigues qu'on sent, qui nous usent, qui nous abîment, qui nous, voilà, on s'essouffle. Et puis il y a les bonnes fatigues où finalement peut-être qu'on est fatigué physiquement, oui, mais on est bien, on est à notre place, on fait l'œuvre de Dieu. Et je crois que la foi, elle nous aide vraiment à nous mettre dans une posture d'accueil qui est finalement la seule posture véritablement reposante. Donc je crois qu'on ne peut pas envisager des vacances sans la foi. Ce seraient des vacances qui ne seraient absolument pas reposantes. On ne peut se reposer qu'en acceptant de recevoir. Se reposer en deux mots. Se poser sur Dieu. Si je ne peux me poser que sur moi-même, je m'essouffle, j'ai le vertige et j'ai peur. Et l'Eucharistie, que nous vivons chaque dimanche, que nous sommes invités aussi à vivre pendant la semaine, bien sûr, on en est invité si on a l'occasion à venir à l'Eucharistie un jour dans la semaine, pourquoi pas ? Eh bien, c'est parfaitement ça. C'est vraiment... Le don, c'est un don. L'Eucharistie est un don qui se fait à travers le prêtre, puisque le prêtre représente le Christ au moment de l'Eucharistie, hein, malgré l'humanité cabossée du prêtre, avec nos défauts, avec nos faiblesses. Comme dit saint Paul, c'est un trésor que nous portons, à savoir ce don de l'Eucharistie, hein, ce don de consacrer le pain et le vin, dans un vase d'argile. Ce sera jusqu'à la fin de nos vies. Hein. C'est une invitation à prier pour notre conversion. Eh bien, l'Eucharistie... C'est le don par excellence. Et le Seigneur nous invite à nous approcher de l'Eucharistie en n'oubliant pas que c'est un don. Que tout m'est donné dans l'Eucharistie. Et que pour recevoir l'Eucharistie, eh bien, le Seigneur me demande de l'accueillir dans la foi. Dans la pauvreté. En reconnaissant que j'ai entièrement besoin de lui. Alors c'est la grâce que nous demandons aujourd'hui, eh bien, c'est de peut-être de retrouver cette, cette vraie dépendance qui est libératrice vis-à-vis de Dieu, de dire, voilà, Seigneur, j'ai besoin de toi entièrement. Sans toi, je peux rien faire. Sans toi, je peux rien faire. Et tu me donnes ton corps, ton sang, ta divinité, tu me donnes tout ce que tu es dans l'Eucharistie. Aide-moi à accueillir ce don dans la foi. Amen.